VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique du Sud. Le Parlement sud-africain s'apprête à élire le vice-président Cyril Ramaphosa ce jeudi au poste de chef de l'État. Le président Jacob Zuma, éclaboussé depuis des années par les scandales de corruption, a finalement renoncé au pouvoir tard hier soir et obtempéré aux ordres de son parti, l'ANC, qui lui demandait de quitter la présidence. Les détails avec notre correspondante à Johannesburg, Patricia Huon.
Une page se tourne en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a officiellement annoncé sa démission. Dans une allocution à la Nation, il a dit qu'il se voyait contraint de quitter le pouvoir. Il a remercié l'ANC, une organisation qu'il a-t-il dit, servi toute sa vie et continuerait de servir. Il a cependant répété qu'il n'était pas d'accord avec la décision prise par les dirigeants du parti. Néanmoins, Jacob Zuma a fini par dire qu'il respecterait l'injonction de l'ANC et la Constitution. Quelques heures auparavant, dans une interview donnée à la télévision publique sud-africaine, Jacob Zuma avait tenté de se défendre. Il a dit que les raisons pour lesquelles on lui demandait de quitter son poste ne lui avaient pas été communiquées. Il a ajouté qu'il aurait voulu se voir accorder un délai, au moins jusque juin, afin d'assurer la transition. Jacob Zuma se sera obstiné presque jusqu'au bout, mais il a finalement suivi l'ordre donné par son parti. L'ANC n'aura pas besoin de forcer sa destitution par le vote d'une motion de défiance au Parlement. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
On reste en Afrique australe, au Zimbabwe voisin. Le chef du principal parti d'opposition est décédé mercredi à 65 ans des suites d'un cancer. Morgan Tsvangirai était un adversaire farouche du régime de l'ex-président Robert Mugabe. Portrait d'un opposant historique avec Jacques Aristide.
Morgan Tsvangirai est né le 10 mars 1952 à Gutu, dans la province de Mazingu. D'origine très modeste, il est devenu l'une des personnalités politiques les plus influentes du Zimbabwe. Leader du Congrès des syndicats du Zimbabwe en 1988, il a mené plusieurs grèves qui l'ont mis au devant de la scène. Il finira par transformer la ZATU en parti politique en 1999. Le mouvement pour le changement démocratique a pour objectif de déloger Robert Mugabe du pouvoir. Son combat va durer plus de 20 ans avec un pic en février 2009 où Tsvangirai accède au poste de Premier ministre du Zimbabwe. Il s'est présenté à deux élections présidentielles remportées par Mugabe. Il a connu plusieurs fois la prison. Il y a 2 ans, Monsieur Tsvangirai avait révélé qu'il souffrait d'un cancer du côlon pour lequel il effectuait de nombreux séjours médicaux dans des hôpitaux sud-africains. Hier, comme par prémonition, Monsieur Tsvangirai a cédé la place à la tête du MDC à l'un des 3 vice-présidents, Nelson Chamisa. Il laisse un parti extrêmement divisé qui se déchire depuis des mois en vue de sa succession alors que le pays doit tenir une élection présidentielle cette année.
Afrique de l'Ouest maintenant, le dialogue politique tant attendu au Togo s'ouvre aujourd'hui. L'opposition et le président Faure Gnassingbé tenteront de mettre fin à la crise qui a commencé par une querelle autour du nombre des mandats présidentiels. Monseigneur Philippe Fanoko Podzro, archevêque émérite de Lomé, a dirigé le Parlement de la transition au Togo et il a eu son mot à dire hier au sujet de la crise. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
C'est dans un document de 27 pages que l'archevêque émérite de Lomé demande au chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, de ne plus se représenter en 2020. Après une analyse de la situation politique au Togo depuis 1990, Monseigneur Philippe Fanoko Podzro exhorte la classe politique togolaise à ne plus commettre les mêmes erreurs. Ceci étant, l'archevêque émérite de Lomé dit être favorable à la réhabilitation de la constitution de 1992 et le départ de Faure Gnassingbé à la fin de son mandat actuel.
J'appuie tout ce qu'il demande, qu'il s'en aille. Il doit plus renouveler son mandat. Je ne dis pas qu'il quitte aujourd'hui, non. Quand je vais finir le mandat en cours, mais en 2020, non. L'entêtement à ne pas quitter le pouvoir, c'est diabolique.
Notons que c'est ce 15 février que s'ouvre à Lomé le dialogue politique sous la médiation du Ghana et de la Guinée. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, au moins 10 djihadistes présumés ont été tués hier dans le nord-est du pays lors d'une opération de la force française Barkhane. Le raid visait le chef du groupe djihadiste en sardine, le malien Iyad Ag Ali. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les djihadistes et terroristes ont les champs libres dans la vaste zone désertique de Tenzawaten. Mais la matinée de ce mercredi a été fatale pour certains d'entre eux, parce qu'une opération menée par l'armée française a été signalée à Inagawalex, à quelques centaines de kilomètres de la frontière algérienne. Les bombardements ont débuté aux environs de 4h du matin et ont pris fin à 5h du matin. Il y a eu des échanges de tirs nourris avec des armes lourdes et automatiques au sol. Des véhicules ciblés ont été bombardés. Face à l'intensité des armes, certains djihadistes et terroristes ont pris la fuite. Le bilan est de 10 morts du côté des djihadistes. 3 véhicules, dont 2 pick-up et un camion, ont été détruits. Selon des sources locales, les véhicules détruits appartiennent à Nosra al-Islam wal-Muslim Diyad Agali. L'opération de la force Barkhane visait un commandement de ce groupe terroriste qui accompagnait avec ses hommes une cargaison d'armes et de munitions vers un sanctuaire à la frontière Mali-Algérie. Après cette attaque ciblée, la vaste zone de Tenzawaten a été survolée par les avions militaires français qui sont basés actuellement à Tessalit, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, début ce jeudi du déploiement de l'armée dans les états du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs. L'envoi de renforts sur place va se poursuivre jusqu'au 31 mars. L'objectif est non seulement d'enrayer les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi les attaques de milices armées contre les populations, en particulier dans les états de Benue, Taraba et Nassarawa, états qui ont connu une escalade de la violence ces dernières semaines. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le Nigeria fait face depuis plusieurs années à une insurrection sanglante de Boko Haram dans le nord-est, du militantisme dans le delta du Niger, de l'enlèvement d'étrangers et des agitations du mouvement Biafra. L'armée est maintenant mobilisée pour mettre un terme aux affrontements entre agriculteurs et éleveurs peuls dans les états du centre du pays. Pour Awal Moussa Rafsanjani, activiste des droits humains, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ces violences.
Je pense que cette affaire des éleveurs est devenue comme une plateforme ou un moyen derrière lequel se cachent certaines bandes criminelles pour perpétrer leurs crimes, parce que, comme on le dit, les agriculteurs et les éleveurs ont toujours cohabité, ils ont eu des problèmes et des désaccords, mais cela n'a jamais été dans la violence.
En plus de la crise entre agriculteurs et éleveurs, l'envoi de soldats doit également permettre de lutter contre le banditisme armé dans d'autres états comme Kaduna. Le général David Amadou est chargé des opérations d'entraînement de l'armée nigérienne.
Il y a également des cas de banditisme, d'enlèvement. Il y a le problème des éleveurs à Kaduna. Il y a d'autres crimes dans l'état de Kogi. De même que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, il y a des attaques contre les innocents dans les communautés, en particulier dans les états de Benue, Taraba et Nassarawa, par des milices armées.
Si l'armée n'a pas précisé les effectifs militaires qui doivent être déployés dans le centre du pays, les Nigériens réagissent différemment à la décision du gouvernement.
Mais les éleveurs tuent et le président ne dit rien. Cela n'est pas juste. Je suis vraiment déçu de l'attitude du gouvernement. Mais je salue la décision de déployer les militaires. Ces soldats doivent être proactifs et éviter le racisme et les considérations religieuses. Qu'ils rejettent le népotisme et le système du tribalisme, mais qu'ils travaillent pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas la meilleure idée de déployer les soldats, mais de toutes les façons, nous avons besoin de la paix partout dans le pays, parce que les exécutions sont devenues récurrentes, et cela est très clair.
Des centaines de personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs depuis le début de l'année, dont le seul état de Benue étant le plus affecté, où un enterrement de masse a été organisé pour 73 personnes tuées dans ces violences en janvier dernier. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Et pour terminer, actualité aux États-Unis, nouvelle fusillade dans une école américaine. Un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique a fait 17 morts et 16 blessés hier, le jour de la Saint-Valentin, dans le lycée de Parkland, une ville du sud-est de la Floride, avant d'être interpellé. Le suspect a été identifié comme un certain Nicholas Cruz, un ancien élève de 19 ans, renvoyé justement de ce lycée de Parkland pour des raisons disciplinaires. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.